Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.
Et donc nous sommes sur Sortir du capitalisme dans une nouvelle émission consacrée aujourd'hui aux origines de la techno dans la crise du Fordisme à Détroit. Et pour en parler, nous sommes avec des membres du collectif Stoff qui ont consacré dans le premier numéro de leur revue un article qui s'appelle « La théorie du boom sur la techno de Détroit et la crise du Fordisme ». Donc il nous a semblé que c'était un article assez intéressant puisque en fait il revisite l'histoire des débuts de la techno qui souvent aujourd'hui passe pour une musique purement capitaliste et commerciale d'une manière assez surprenante pour qui ne connaît pas l'histoire de la techno, et il relie cette histoire des débuts de la techno, disons dans les années 80-90, à la crise du Fordisme à Détroit, donc qui était la grande ville symbole du Fordisme, puisque c'était là-bas que Ford avait ses usines qui comptaient plusieurs centaines de milliers d'ouvriers à son apogée. Et donc, à partir de cet exemple, du coup, ce que vous essayez de faire, c'est aussi de revenir de manière critique sur la position adornienne qui est hégémonique à l'extrême gauche sur les productions musicales, puisque Adorno voit dans les productions musicales, on va dire post-classiques, post-musique classique, finalement, des simples productions marchandes de contenu qui n'ont qu'un but compensatoire après la journée de travail, un but fonctionnel pour le capitalisme, pour assurer sa reproduction dynamique et harmonieuse, alors que l'interprétation que vous proposez est évidemment bien plus complexe. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, finalement, revisiter la théorie d'Adorno à travers l'exemple très singulier, de la techno à Détroit? Est-ce que c'était notamment parce qu'il y avait des enjeux, notamment pour essayer de lier justement l'apparition de certaines formes musicales à un contexte de crise et de restructuration du capitalisme, notamment dans un contexte très racialisé qui est celui de Détroit?
Cet objet un peu surprenant à premier abord, enfin, en fait, c'est parce que déjà on aime ça, c'est un truc qu'on aime écouter, voilà. Mais aussi parce que il y a quelque chose d'assez métaphorique, assez symbolique dans ce phénomène esthétique, l'émergence de la techno. En fait, faut avoir conscience que c'est aujourd'hui représenté comme une musique européenne, berlinoise. Elle a eu son histoire berlinoise, mais c'est une musique qui est profondément liée à l'histoire américaine qui fait suite à la crise du modèle fordiste. Et c'est assez fascinant que cette musique-là, la techno, qui est une des formes de musique électronique qui naissent à l'époque, on verra, c'est une musique qui a sa propre signature sonore, telle qu'on la connaît de manière précise. La techno, elle apparaît dans les années 80 à Détroit, dans cette ville qui représente, comme tu l'as dit, en fait, le modèle de production et le modèle de reproduction idéologique de l'économie capitaliste américaine et mondiale dans la phase qui va des années 1930 aux années 1960. Et ce qui est intéressant par rapport à Adorno et la critique de son modèle d'esthétique des musiques populaires, qui est une esthétique un peu méprisante, au sens où toutes les musiques populaires sont, dans l'ère capitaliste, rejetées comme des simples fonctions idéologiques du système, ce modèle d'analyse, alors je ne sais pas si on peut dire qu'il est hégémonique dans l'extrême gauche, mais en tout cas, il a eu une place importante et il n'a pas été remplacé par d'autres modèles par la suite du fait peut-être d'un désintérêt aussi de la gauche marxiste pour les questions esthétiques. Et en fait, ce qui est intéressant avec la Techno de Détroit, c'est que c'est justement une sorte de pied de nez en fait à l'hypothèse d'Adorno. Parce que l'hypothèse d'Adorno, c'est en fait une hypothèse qui a un sens dans le contexte du fordisme. Et à partir du moment où ce modèle social s'effondre, son analyse perd aussi de sa pertinence. Le fait que les cultures populaires et la musique populaire notamment aient pour but l'intégration des travailleurs et travailleuses salariées dans leur mode de travail à la chaîne et dans leur imaginaire de bien-être et de prospérité de ce rêve américain, etc., etc. Et que, en fait, ce modèle d'analyse, il peut avoir une certaine pertinence dans une certaine époque de l'histoire, mais pour toutes les musiques populaires qui nous intéressent et qui apparaissent, en fait, c'est cette contre-culture qui apparaît à la fin des années 60, début des années 70 et qui prend son essor dans les années 80 avec le punk et la techno. Justement, on ne peut pas les analyser avec les outils théoriques et esthétiques d'Adorno. Et du coup, il faut les creuser, les développer, ces objets-là, pour essayer de faire émerger une autre interprétation des musiques qu'on dit populaires et en fait des contre-cultures.
Donc en ce sens, le choix de l'objet n'est pas que lié en fait à la musique techno elle-même, mais aussi de la place qu'occupe cette musique dans une certaine société. Ce qui ne veut pas dire d'emblée qu'on considère la techno comme occupant une certaine fonction dans un système bien huilé, parce que précisément, ce serait présupposer ce qui peut-être a été vrai à une certaine époque, mais qui ne l'est plus tout à fait aujourd'hui. Donc l'idée, c'est aussi par le prisme de la techno, de voir ce que peut nous dire l'expérience de cette musique et des pratiques qui se sont constituées autour d'elle, enfin, ce que cet ensemble peut nous dire de transformation sociale plus profonde.
Et aussi, enfin, revenir sur l'histoire de l'objet et sa genèse pour dépasser les simplifications qu'on peut avoir dans des représentations actuelles de la fonction de cette musique-là, sa fonction de compensation, de simple défouloir, etc., etc. Donc ouais, en fait, on pense que l'histoire permet de nous faire comprendre la complexité de la chose, la dimension en fait sociale de l'objet musical.
Oui, ce qui est intéressant justement, j'ai l'impression, dans votre article, c'est que à la fois, il y a quand même une volonté, évidemment, le sous-titre l'indique, de montrer que le développement de la techno à Détroit est bien en lien avec une certaine expérience sociale de la crise du Fordisme, de la crise des industries automobiles, notamment à Détroit, et des conditions sociales qui se détériorent pour notamment le prolétariat noir aux États-Unis. Mais en même temps, il y a aussi une volonté d'échapper quand même à l'écueil, des marxistes qui, pour le coup, pourraient s'intéresser aux formes esthétiques, aux productions musicales, etc., qui serait finalement de faire correspondre un petit peu schématiquement des phases du capitalisme avec aussi des formes de contre-culture, c'est-à-dire pas seulement, des productions musicales comme étant fonctionnelles au capitalisme, mais aussi des productions musicales comme reflétant, même de manière négative d'ailleurs, une certaine phase du capitalisme. Tu montres bien effectivement que la techno de Détroit, elle révèle aussi une expérience de la crise industrielle post-fordiste à Détroit, notamment de la part des prolétaires noirs, mais que pour autant, on ne peut pas réduire la production de la techno à ça, que c'est un petit peu plus complexe que ça, d'où l'intérêt aussi de rentrer, comme tu le fais dans ton article, dans une histoire complexe pour qui ne connaît pas l'histoire de la techno, mais intéressante et auquel tu expliques de manière à la fois pédagogique et intéressante.
Ouais, justement, le but de notre réflexion, en fait, c'est à la fois de prendre conscience de l'importance du milieu socio-économique, de la géographie, de tout l'entourage du monde dans lequel apparaît un objet musical pour comprendre son sens et comprendre l'expérience qui va avec, sans pour autant réduire, plaquer du coup le sens de cet objet-là et en fait son contenu d'expérience à une fonction du système ou à un simple reflet du monde. Et pour ça, c'est important de comprendre que la culture, en l'occurrence la musique, elle a sa vie propre, elle a son histoire propre qui se fait du coup dans un rapport au monde économique, au monde social, mais pas un rapport immédiat, un rapport qui est médiatisé par un ensemble de jeux, de reprises, de déplacements. Notamment, ce qui est intéressant dans la techno, c'est qu'elle ne se réfère pas directement dans son imaginaire, sa musique, ses discours et les pratiques qui les entourent. Elle ne se réfère pas directement, rarement directement à l'histoire socio-économique, mais elle se réfère en fait à d'autres cultures musicales et à d'autres, disons, discours musicaux. Et dans ce rapport-là, dans cette confrontation, on peut voir se dégager quelque chose de singulier. Et pour être un peu plus précis, parce que c'est très vague, en fait, la techno, on peut la comprendre comme une sorte de prise de distance critique ou, disons, orientation musicale polémique contre une tradition qui était à Détroit très importante, qui est celle de la musique soul, et notamment autour d'un énorme label qui a été déterminant pour l'émergence des musiques du coup soul afro-américaine, qui était la Motown, et un énorme label qui a en fait contribué à l'émergence de cette musique populaire afro-américaine des années 60, et qui a été très influente pour aussi le développement plus tard de la R&B et de choses comme ça. C'est de cette origine-là que ça vient. Et cette musique-là, soul, a une sorte de rapport au monde qui est celui de l'espoir, de la réconciliation et en fait de la consolation par, disons, la défense de valeurs comme celle de l'amour, comme celle finalement du succès et de la réussite sociale, au moment même où la ville de Détroit connaît une crise très profonde dans les années 60. Et on peut voir dans la musique techno qui apparaît plus tard une manière de finalement s'opposer à ce récit musical et dire non, en fait, ce qui s'est passé dans cette ville et ce qui habite cette ville, c'est autre chose que ces grands récits fédérateurs et réconciliateurs qui ont été, disons, développés dans les musiques soul de la Motown. On peut voir ça comme ça.
Ce qui ne veut pas dire que pour autant qu'on considère du coup, le développement de la techno comme, encore une fois, une sorte d'idéologie qui reflèterait une transformation sociale profonde. Mais justement, en fait, il s'agit d'accorder une autre place aux productions musicales et culturelles plus généralement, qui n'est pas, encore une fois, cette... la place au sens d'une fonction, c'est-à-dire d'emblée, en fait, cette musique techno servirait à intégrer ou à adapter les gens d'une certaine manière aux conditions dans lesquelles ils entrent, mais au contraire de voir, en fait, d'une part, cette espèce de rapport critique aussi à la Motown qui la précède, mais aussi de voir comment, du coup, les différents imaginaires qui vont se déployer dans la techno sont, en fait, des manières de... justement pas forcément donner un sens à ce qui arrive pour ces gens qui font l'expérience des transformations profondes de la ville de Détroit et de notre ville américaine. Non pas forcément donner un sens, mais plutôt d'être dans un rapport d'interprétation vis-à-vis de ce monde qui les environne. Donc, et c'est là que justement toutes les analyses de l'article, notamment de l'imaginaire futuriste ou de l'imaginaire de la conquête spatiale rentrent en jeu. Donc pas simplement pour dire que du coup la techno sert à fuir en quelque sorte le quotidien amoureux de ces conditions d'émergence, mais plutôt de voir en fait dans ces différents imaginaires une manière en fait en quelque sorte aussi de commenter sa propre expérience sociale. Parfois simplement en pointant du coup justement le décalage entre les promesses fordistes qui se sont retraduites d'une manière ou d'une autre dans la musique, donc de pointer le décalage entre ces promesses et la réalité sociale.
Un exemple peut être assez parlant, en fait. Disons, dans la première génération des DJ de Détroit qui ont un peu fait naître la techno, on avait encore, disons, une dimension très festive, très positive, très, très célébratrice, si on veut, de la vie telle qu'on peut la vivre dans ce monde. Et en fait, il y a notamment un tube de l'époque qui a été hyper, hyper, hyper écouté, qui vient de Détroit et... en fait, c'est par un des trois DJ fondateurs de la techno, Kevin Saunderson, et le tube s'appelle Good Life. Et on a du coup une voix qui chante, on va voir. Let me take you to
a place I know you wanna go. It's a good life.
Alors, cette dimension, du coup, très positive de la musique, première musique techno de Détroit, c'est comme un héritage de la Motown qu'on entend encore au début de la techno. On est dans les années 80. Et en fait, ce qui va se passer quand la techno va se singulariser, quand elle va se détacher de cet héritage soul et obtenir une dimension beaucoup plus mécanique et brutale, va y avoir comme un jeu de subversion par rapport à cette première génération des années 80. Un exemple de cette subversion-là, c'est un des premiers titres de Jeff Mills, qui est devenu ensuite un DJ très célèbre et qui est venu d'une sorte de niche comme ça, underground de Détroit. Et ce titre, c'est quelque chose qu'il a fait avec un duo qui s'appelle Final Cut. Et voilà, on va l'écouter tout de suite. Open Your Eyes. Et en fait, on peut voir dans le jeu entre ces deux morceaux, si on veut, au début de la techno Détroit, quand elle n'est pas encore tout à fait constituée, comme une forme de renversement. C'est ça que j'ai essayé de dire tout à l'heure par rapport à la polémique qui est menée contre l'héritage de la Motown. Et en fait, il y a plusieurs dimensions dans cette techno Détroit. Elle a certes une dimension soul et festive, mais c'est pas ça qui la singularise. Ça, c'est une dimension qu'elle partage beaucoup avec la Music House de Chicago. Et c'est à partir des débuts des années 90, donc après une dizaine d'années de premières expérimentations, qu'on voit naître une seconde génération qui, elle, met en avant beaucoup plus l'aspect négatif, dévastateur du son qu'on connaît peut-être plus aujourd'hui. Et c'est celui-là qui nous a le plus intéressé dans l'article.
Oui, et plus précisément... vous montrez dans votre article l'existence, voilà, de correspondance entre des expériences sociales qui correspondent encore à la phase industrielle et fordiste de la ville de Détroit, et du coup des expériences sonores. Donc il y a une très grande importance dans la techno de Détroit, surtout des années 90, si je comprends bien. Il y a une très grande place faite à des sons vraiment industriels, des sons de la chaîne de montage, etc. Et du coup, est-ce que vous pourriez donner un peu des exemples précis de correspondance entre cet univers industriel qui a disparu largement au moment où la techno de Détroit se développe dans les années 80-90, et donc les morceaux eux-mêmes, et puis même la manière dont les morceaux sont composés, puisque donc il y a toute une analyse musicologique qui est passionnante dans votre article, même pour des personnes qui à la fois n'écoutent pas de techno et ne sont pas du tout calées en musicologie comme moi. Mais disons, donner des exemples concrets pour montrer un petit peu comment est-ce que vraiment, il y a dans la forme même de certains morceaux de musique et aussi dans leur contenu, dans les sons industriels qu'ils utilisent, des références à l'univers industriel révolu de Détroit, qui à la fois en montre toute la violence sonore et une volonté aussi de casser l'idéal de l'intégration fordiste de la classe ouvrière blanche et noire telle qu'elle existait dans la Soule, et en même temps qui n'exprime pas que non plus une forme de négativité, disons, qui serait simplement dans l'ordre de la dénonciation politique de cette exploitation.
Moi, je pense spontanément ici à un titre de Jeff Mills, dont il a déjà été question, le morceau The Workers, qui est l'objet de l'une de ces analyses assez détaillées que tu évoques. Justement, ce qui est intéressant avec ce morceau, c'est que, premier abord, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'on dit, nous, que la techno ne fait pas que refléter l'environnement industriel, post-industriel, alors que justement, ce qu'on a dans ce son, c'est à la première écoute, ou en tout cas durant les premières minutes, une cadence qui est celle, en fait, tout simplement de la chaîne de montage, avec ces différents bruits qui... forme une sorte de rythme monotone qui est un petit peu celui en fait du corps qui travaille en étant soumis à la cadence de la machine. On pourrait se dire là c'est juste une manière de refléter la réalité du travail à l'ère de la société soumise à ces machines, mais en fait justement le morceau progressivement se met à jouer avec cet univers en quelque sorte pour l'exagérer, dans cette exagération le tourner aussi en dérision en quelque sorte, puisqu'il y a ce moment en fait d'éclatement dans le son où on a l'impression que tout s'effondre, ou en tout cas tout se désintègre. C'est là en fait, c'est dans ce genre de jeu qu'on voit que en fait il y a pas un simple reflet, il n'y a pas non plus une sorte d'interprétation simple à faire qui consisterait à dire que c'est en fait une manière d'exalter le travail à l'époque dans son industrialisation, mais plutôt en fait peut-être aussi faire ressentir quelque chose de la souffrance qu'implique cette cadence des machines, précisément dans un contexte où la promesse plein emploi a commencé à s'effriter.
Beaucoup cet exemple que tu donnes parce que en fait c'est une sorte de mise en scène aussi de la violence de l'accélération des cadences qui était une stratégie d'oppression du travail que voilà on a le rythme qui accélère qui s'emballe et on sent ça en fait dans la musique on n'a pas du tout une exaltation et en fait il y a eu énormément de grèves dans les années 60 contre cette accélération des cadences. Hein, des grèves vraiment de base spontanées menées par les Afro-Américains, les Noirs américains. On sent un peu aussi cette dimension-là de blocage à la fin du morceau, voilà, de ce que tu expliquais très bien. Et en fait, ça va à l'encontre de une théorie sur les musiques, les nouvelles musiques à l'âge industriel qu'on avait dans le futurisme. Futurisme, alors mouvement italien, voilà, du début du XXe siècle, au moment du développement de la grande technologie, etc. Et le futurisme voulait adapter l'homme, l'être humain, à ce monde industriel. Harmoniser l'individu à cette nouvelle puissance technologique. C'est dans L'art des bruits d'un auteur futuriste qui s'appelle Russolo. Et je sais pas, on a un peu l'impression que ce mythe-là d'une harmonisation totale est un peu fragilisé. Alors il n'est pas complètement mis de côté parce que dans la techno on a aussi l'imaginaire d'une nouvelle alliance de l'être humain de la machine, mais avec cette dimension dystopique qui est comme une basse continue qui va miner un peu le mythe de l'harmonisation de l'intégration et de la pacification. Et alors, on va bouger comme ça de l'univers de l'usine, de la chaîne de montage, à aussi l'univers de l'émeute, de la rue, de la révolte. On a toute une série de titres qui sont produits sur le nouveau label de la deuxième génération qui s'appelle Underground Resistance, qui a joué un rôle déterminant dans l'histoire de la techno. Toute une série de titres qui mettent en scène en fait un imaginaire sonore qui relève plus du coup de l'émeute. Parce que Détroit, ben voilà, c'est une ville qui est connue dans l'histoire américaine pour avoir vécu un des épisodes émeutiers les plus spectaculaires jusqu'au récent événement qu'on connaît bien. En 67, l'émeute de Détroit, c'est pendant plus d'une semaine de soulèvement, l'armée qui intervient, qui tire à balles réelles sur les gens, plus de 43 morts, des milliers de blessés, etc. Et il y a tout un récit de la ville de Détroit et de la crise de cette ville, parce que Détroit, maintenant, aujourd'hui, c'est la ville en crise, c'est la ville qui s'est effondrée, etc. Et tout le récit dominant de cette histoire, c'est de faire de l'émeute la cause du déclin. Ce soulèvement des populations sauvages, etc., qui n'ont pas réussi à trouver leur bonheur dans le système qu'on leur proposait. Et ce serait la cause du déclin. Et en fait, ce qui se joue dans la techno, c'est justement peut-être une autre lecture, une autre interprétation, si on veut, qui est métaphorique, qui est sonore, de cette histoire-là. En montrant qu'en fait, l'imaginaire fordiste de la machine, de l'usine, etc., a été dystopique dès le début. Il n'y a pas eu une période florissante qui aurait été uniquement positive d'intégration, suivie d'une période de déclin. Et les émeutes ne sont que la pointe la plus saillante de contradictions qui sont là bien avant. Et d'où la mise en scène de la machine, de l'industrie, etc., toujours dans un univers sonore doté d'une certaine violence et d'une certaine dose en fait d'agression sonore et d'angoisse.
Oui, par rapport à ça, du coup, ce que vous semblez dire dans votre article, c'est que finalement, la techno serait voilà, une sorte de déconstruction sonore du grand récit du fordisme, c'est-à-dire non pas simplement l'expression, le reflet, entre guillemets, dans une théorie un peu marxiste, réductionniste, voilà, des productions super structurelles comme reflet des changements dans l'infrastructure, voilà, que finalement, ce serait voilà, simplement l'expression d'un déclin industriel, mais finalement, c'est aussi voilà, une déconstruction sonore de ce grand récit fordiste. Après, vers la fin de l'article, vous indiquez aussi que la techno n'est pas seulement, disons, à comprendre en regard de ce grand récit fordiste et de la désindustrialisation, mais aussi des nouvelles formes de travail et voilà, de la forme restructurée néolibéral, comme on dit, du capitalisme. Alors là, peut-être moins dans le contenu lui-même de l'œuvre, qui appartient pas forcément à cette époque, puisque, mais dans la réception des personnes qui écoutent. Est-ce que du coup, vous pourriez un petit peu nous éclairer sur justement cette réception de ce genre de morceaux par des auditeurs des années 2010-2020? Comment est-ce que ça peut entrer en résonance avec une expérience qui n'est pas celle, ou pas forcément celle en tout cas, de la désindustrialisation fordiste, ou encore moins du mythe de la prospérité fordiste, mais plutôt du capitalisme restructuré, néolibéral, en crise des années récentes.
Là, il me semble que, en fait, d'emblée, l'écueil qui se présente, c'est celui qui consiste à dire qu'en fait, Du coup, l'évolution de la techno reflète à petit une forme d'atomisation des travailleuses et des travailleurs, telle sorte que, en fait, du coup, dans l'expérience même de l'écoute de techno dans les clubs et dans les raves, en fait, ce qui se retraduit, c'est purement et simplement la même séparation, ou la même, à la limite, la même unité dans la séparation qui caractérise un travail qui, dans nombre de pays occidentaux, démographiquement, gagne en importance dans les secteurs dits tertiaires, donc aussi, du coup, avec des formes de travail qui empêche les formes de socialisation directe. Et du coup, l'idée, ce serait de dire qu'en fait, bon, voilà, regardez ces lieux où les gens écoutent de la techno, en fait, ils sont juste en train de répéter les mêmes mouvements avec leur corps, en ne communiquant même pas directement les uns avec les autres. Ça serait un petit peu, je crois, l'interprétation qu'on essaye d'écarter, mais qui est en même temps un petit peu l'interprétation qui donne un petit peu le pied de nez ironique au titre du texte, puisque c'est ce genre d'interprétation qu'on trouve beaucoup dans beaucoup d'analyses qui se revendiquent d'une manière ou d'une autre de la théorie critique. Typiquement, voilà, il y a des textes des courants apellistes qui dénigrent complètement la rave, précisément comme ce lieu où, en fait, les gens se retrouvent dans une sorte de rituel simplement pour pérenniser et accepter leur soumission à cette unité dans la séparation, c'est-à-dire à cette le fait de se retrouver mais pour ne pas réellement s'unir, mais simplement prendre plaisir individuellement dans une danse de l'aliénation.
Et en fait, c'est assez marrant qu'on retrouve aujourd'hui, du coup, cet imaginaire, un peu ces critiques, un peu réactionnaires de musique mécanique, qui serait juste l'adaptation des individus au monde de la machine, au monde de la séparation privée de sens. Les mêmes critiques qu'on avait déjà dans une certaine théorie critique, la fameuse critique de l'industrie culturelle d'Adorno et d'un certain nombre d'intellectuels allemands émigrés aux États-Unis qui découvraient aussi les grandes musiques populaires et notamment qui découvraient le jazz et les clubs de jazz. Et on a des textes en fait, alors d'une certaine mesure d'Adorno qui compare pas mal le rythme syncopé du jazz au rythme de la machine, etc. Et dans des textes d'autres penseurs allemands de l'époque, ou alors il y a des descriptions des clubs de jazz, des bas-fonds comme étant des temples de la machine où les individus se perdent dans leur soumission, voilà, des choses un peu de cet ordre-là. Donc c'est des critiques en fait qui sont récurrentes, c'est pas un truc tout à fait nouveau à aujourd'hui. Et évidemment, on est face à des objets de culturels, esthétiques qui sont ambivalents. Ça existe, il peut y avoir une certaine fonction compensatoire par rapport à la souffrance vécue dans ce système, une sorte de soupape de décompression, etc. Dans la fête, on sait. Mais voilà, si cela existe, est-ce que ça doit nous conduire à un jugement moral pour dénoncer? Est-ce que ça ne peut pas être compris de manière inverse comme l'expression d'une contradiction vécue, des besoins en fait d'expérience qu'elle produit, premièrement. Et deuxièmement, en fait, on peut aussi avoir une lecture très différente de ces pratiques d'écoute musicale et de danse comme en fait une subversion des affects qui sont produits sur les individus, les affects psychiques qui sont produits dans leur subjectivité pour les adapter à ce système. Alors là, voilà, on fait une petite hypothèse à la fin du texte un peu baroque, un peu voilà exploratoire, mais de dire que en fait le mode de production actuel repose sur une sorte de transformation de l'angoisse vécue des individus du fait de la précarité sociale dans du stress et le fait de faire de ce stress un moteur de la discipline au travail. Du coup, voilà, une sorte d'énergie psychique négative qui va être utilisée pour subjectiver, discipliner les individus dans leur travail fragmenté, dans leur travail prétendument autonome, etc. Voilà, ce stress permanent. Et du coup, dans la confrontation avec la négativité de la techno, les sons destructeurs, les sons qui sont assez dévastateurs, il y a comme une manière de se confronter à l'angoisse différemment que sous sa forme stress, qui conduit à la discipline au travail. Une manière, en fait, qui, pour utiliser un terme qu'on emploie, désubjective l'individu, lui fait retomber dans une sorte de jouissance plus fondamentale que un plaisir compensatoire. Hein. C'est pas juste d'un côté t'es stressé, d'un côté tu vas compenser en ayant du plaisir. Non, cette jouissance qui est un peu l'affect de l'écoute de la techno, c'est le fait d'assumer cette angoisse et de ne pas la transformer en stress, mais de la vivre pleinement et de la sublimer de cette manière. Voilà, bon, ça c'est juste une sorte d'hypothèse qu'on a un petit peu à la fin. Voilà, pour dire qu'en fait l'objet musical il est ambivalent dans les pratiques et sa réception. Mais on veut éviter d'avoir un jugement moralisant sur la chose et rendre compte en fait de l'expérience des individus. Pourquoi en fait on y trouve une certaine satisfaction dans l'écoute de cette musique, dans les pratiques aussi de danse, les prises de drogue, etc. qui sont associées. Mais voilà, c'est plus une ouverture sur ce qui se fait aujourd'hui. Et nous, on pense aussi que dans cette expérience actuelle, il y a quelque chose qui se traduit de ce qu'a été cette musique dans sa genèse.
Voilà, ici, si aussi l'article finit là-dessus, c'est que en fait, c'est comme ça que se traduit concrètement les choses un peu générales et abstraites qu'on a pu dire par ailleurs là, dans la discussion. Donc notamment relativement à quand on parle de la musique, quand on dit que la musique n'occupe pas simplement le rôle d'une fonction idéologique, c'est précisément dans ce sens-là, c'est-à-dire que il n'y a pas lieu de présupposer que telle ou telle pratique musicale remplisse d'emblée comme ça un effet prédéterminé dans un système prédéterminé. C'est-à-dire que certes, il ne s'agit pas de nier le caractère structurant des rapports sociaux capitalistes sur nos vies. En revanche, l'expérience sociale, c'est aussi le lieu où tissent des manières en fait, de subvertir certains éléments de ce qu'on vit, donc aussi en quelque sorte d'en faire des instruments, si ce n'est de résistance, moins pas aussi simplement de donation de sens, mais plutôt des manières de donner une forme à nos vies sous ces conditions-là. Donc quand on dit voilà vivre pleinement l'angoisse dans une sorte d'expérience de la désubjectivation, ça montre que en fait il y a un rapport disons actif aussi dans la musique, il y a un rapport actif à notre environnement, pas simplement une façon de subir comme ça des déterminations qui nous sont extérieures. Il y a aussi une manière d'agir sur cet environnement, même si certes cette action elle n'est pas d'emblée partie prenante d'un mouvement plus général qui serait explicitement opposé dans son langage à l'ordre existant. Et c'est peut-être qu'à ce moment-là qu'il y a des choses à préciser sur ce qui est dit par ailleurs sur les visées politiques qui peuvent exister dans la technique. L'engagement politique concret des personnes qui font cette musique ou qui écoutent cette musique. Il y a peut-être des choses à expliciter sur le caractère politique ou non, dans quelle mesure est-ce qu'on peut parler d'une orientation politique de cette musique, est-ce que le mot est bien choisi ou pas, c'est une chose qu'on peut soumettre à discussion.
En tout cas, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il y a eu en fait des pratiques collectives de réappropriation des moyens de production esthétique et d'autonomie en fait de la création qui ont en fait un sens politique dans ce qu'elles permettent de faire vivre au collectif et de transmettre à ce collectif d'expérience et qui aussi se mettent en scène de manière politique, mais alors souvent des mises en scène qui sont plus de l'ordre de la dramaturgie esthétique que de la véritable action politique, comme si on voulait changer le monde à travers la musique. Non, c'est pas ça. Mais c'est plus une sorte de prise de position au sein du champ musical. Et les meilleurs exemples de ça, c'est ce qu'a essayé de faire le label Underground Resistance, qui s'est créé donc au début des années 90, au moment en fait de un peu de virage comme ça sombre industrialiste de la techno de Détroit. Et ils ont voulu se réapproprier les moyens de production et de diffusion de cette musique. Alors qui ça il en fait, c'est quelques types qui sont pas très intégrés dans les circuits, qui sont pas très riches, qui ont quelques machines dans leur cave. Mike Banks, Jeff Mills, Robert Howd et d'autres. Et ils vont en fait créer leur label et faire autre chose que la techno qui avait à la fin des années 80 eu un succès commercial immense en étant diffusée chez Virgin, etc. Et ils vont notamment avoir leur propre presse de disques. Ils vont également faire des tirages qu'ils diffusent eux-mêmes et ils vont en fait prendre position dans leur musique contre ces grands labels Alors, il y a un titre que je peux citer. Enfin, c'est sur le EP qui s'appelle Fuck the Majors. Et les majors, en fait, c'est les grands labels de production musicale de l'époque. Et on a un disque sur lequel la première face dénonce du coup les grands labels. Et l'autre face met en scène la violence policière en faisant une sorte d'hommage à Malice Green, qui était une victime de la violence policière de l'époque. Donc, on a en fait une sorte tout de même de prise de position politique qui n'est pas pour autant une croyance dans l'agir politique de la techno, comme si elle allait transformer le monde d'expérience. Mais ce qu'elle peut faire, du moins, c'est constituer un collectif d'expériences qui se positionne de manière critique dans le champ musical. Donc je pense pas que, enfin, analyser en termes politiques ne veut pas forcément dire qu'on recherche une finalité, une utilité politique dans la transformation sociale, mais au moins comprendre qu'il y a un positionnement critique et réfléchi par rapport au monde dans lequel est produit cet objet musical.
Peut-être aussi et simplement parfois dans le sens du sample, quoi. C'est-à-dire dans le sens où en fait on rend présent dans les sons eux-mêmes des éléments de la réalité sociale qui forcément vont avoir une signification politique. Par exemple, voilà, rendre présente l'alarme des voitures de police, ce genre de choses. C'est aussi une manière, disons, en tout cas sous les conditions où cette musique est produite par un auberge des Essen, c'est une manière en tout cas de chercher une certaine connivence avec les gens qui pratiquent cette musique, voilà, autour de cet environnement commun.
Et on peut écouter à ce sujet le titre Panic du Riot EP, qui est assez symbolique de cette démarche-là. Enfin, c'est un des premiers EP de Underground Resistance et ça met vraiment en scène cette démarche, quoi.
Par rapport à la dimension politique, donc tu as dit que la techno de Détroit, elle n'était pas futuriste, voilà, comme le futurisme italien qui d'ailleurs, dont certains éléments ont fini fasciste d'ailleurs. Et pour autant, vous avez aussi évoqué le fait que dans la techno, il y a aussi un imaginaire de la conquête spatiale. Comment est-ce que finalement la techno échappe malgré tout à une espèce d'horizon utopique technologique qui finalement reprendrait d'une certaine manière l'imaginaire fordiste. Voilà.
Alors, ouais, en fait, ce que tu dis là, c'est quelque chose qu'on peut pas nier, quoi. Le fait qu'il y ait dans la techno une sorte aussi de fascination apologétique pour le progrès technique, la machine et la conquête spatiale. Et dans certaines de ces expressions, aussi peut-être plus récentes, il y a véritablement une sorte de mythe du dépassement des problèmes sociaux, des conflits, par une sorte d'humanité nouvelle reliée à la machine. Jeff Mills a un peu cette tendance. Il y a un peu, Jeff Mills représente bien une sorte d'embourgeoisement de la techno qui s'est fait à la fin des années 90, début 2000, et complètement compatible avec ce genre d'idéologie, d'utopie réconciliatrice, on pourrait dire. Mais en fait, toute l'imaginaire de la conquête spatiale, tel qu'il est pensé au début des années 90, très très présent dans Underground Resistance, c'est beaucoup plus la volonté de ne plus rien chercher, enfin on peut l'entendre comme ça, mais ne plus rien chercher de positif dans le monde d'expérience vécue, de se projeter comme ça dans une sorte d'ailleurs total qui serait le lieu d'une reconstruction utopique. mais ça se fait pas dans la célébration du monde existant. Et en fait, c'est comme une sorte de contrepoint à la négativité totale sur le monde existant. Ben, du coup, on a aussi des moments comme ça qu'on peut dire utopiques, au sens où c'est un non-lieu, le lieu de la conquête spatiale. Et alors, moi, j'aime beaucoup le. Moi, il y a un album, je trouve que c'est le meilleur album de toute cette génération-là, et mon album de techno préféré, sans comparaison, qui s'appelle Discovers the Rings of Saturn, la découverte des anneaux de Saturne. Et on peut s'écouter rapidement un bon morceau qui s'appelle Titan, donc c'est le nom d'un anneau de Saturne. Et alors, en fait, quand producteurs, DJ qui ont fait ça, enfin Mike Banks en parle, il explique que c'est une sorte d'expérience musicale, une expérience sonore un peu imaginaire. Il essaie de voir, de faire sentir ce que pourrait être cette conquête spatiale si elle était dans les mains d'un enfant de 8 Miles, qui était en gros le boulevard hyper paupérisé de Détroit. En fait, c'est une conquête spatiale qui est rendue aux mains des prolétaires, quoi. Et du coup, qui rend aussi une sorte d'imaginaire complètement débordant, rythmique aussi, un imaginaire rythmique qui n'est pas du tout celui seulement de la machine au sens propre, mais qui peut être aussi un imaginaire rythmique de la danse libératrice. Et à ce côté-là, il y a aussi le titre très très cool de Jupiter Jazz. Voilà, on peut écouter un tout petit extrait.
Thank you.
Ouais, donc on entend là quelque chose comme une sorte aussi de jouissance positive, etc. On retrouve l'esprit soul, on retrouve l'esprit qu'on avait peut-être aussi dans la Motown, mais déplacé, comme transposé dans un ailleurs total et pas pensé comme une réconciliation possible avec ce monde alors du Fordisme ou du post-Fordisme. Moi, c'est comme ça que je me dis qu'on peut l'entendre et qu'on peut l'analyser.
Il y a peut-être aussi des échos à voir là-dedans, dans cette musique, avec d'autres expérimentations esthétiques d'Afro-Américains dans la seconde moitié du XXe siècle, notamment dans la littérature, avec toute la riche littérature de science-fiction qui justement consistait à projeter ben, voilà, la conquête spatiale, mais la conquête spatiale par des Noirs, parfois de différentes manières, avec différents scénarios possibles, parfois précisément pour refonder un monde radicalement émancipé sur une autre planète, ou alors effectivement avec cette idée parfois aussi de revenir sur Terre, mais avec des moyens qui transcendent désormais l'existence simplement humaine. Bon, parfois, bon, avec cette différence que justement ce qui semble caractériser un petit peu ce qui est décrit à propos de la conquête spatiale telle qu'elle existe dans la techno. Avec cette différence que justement dans le cas de la techno, pas forcément cette idée que ça va permettre de concilier quelque chose ou disons de créer une nouvelle harmonie. C'est plutôt, j'ai l'impression, souvent quelque chose comme un univers spatial, mais où justement est projeté sous des formes, encore une fois, un peu exagérées et du coup aussi parfois tournées en dérision. Les rapports existants, qui sont des rapports de classe, de race. Donc, peut-être aussi une certaine manière, quelque sorte, simplement d'expérimenter, avec des possibles pour nourrir un imaginaire radicalement différent de celui dans lequel vivent ces collectifs et ces individus, notamment organisés autour de la grande résistance. Donc, en fait, en quelque sorte, une manière de rompre par l'expérimentation musicale de la conquête spatiale, avec le caractère un peu niais ou le caractère justement assez conciliateur et harmonieux d'une certaine tradition musicale.
Excellent exemple de ça au sein de la musique techno de Détroit des années 90, et un peu de l'héritage de Underground Resistance. C'est le projet absolument fascinant de Drexia. Alors Drexia, c'est un collectif de DJ qui l'imagerie, enfin en gros des illustrations des jaquettes autour des titres des albums et dans des textes intercalés autour de ces albums-là, mettent en scène un contre-récit de la traite négrière en fait, avec cette représentation d'un bateau en fait qui se serait un bateau esclavagiste qui se serait qui aurait coulé et les populations enfin les esclaves emmenés vers les Amériques qui auraient survécu en fait et qui auraient sorte de muté pour devenir des êtres aquatiques mi-humains mi-une nouvelle race supérieure qui auraient du coup développé un nouveau potentiel d'expérience et Drexia joue en fait sur cet imaginaire, les Drexia étant ce peuple donc qui aurait échappé à l'esclavage et qui aurait pris une autre direction, aurait créé un autre monde sous-marin cette fois-ci et non pas spatial. Donc en fait, l'utopie et le contre-récit utopique peut se jouer dans différents lieux et différents imaginaires. Mais il y a ça dans la techno, il y a cette volonté de construire aussi, déconstruire des grands récits et construire des contre-récits qui s'entendent dans le son et qui sont aussi explicités dans disons, représentations de cette musique, représentations visuelles, textuelles, etc. Alors on peut s'écouter un morceau de Drexia juste pour le plaisir rapidement.
Ah, il faut.
Oui, donc on pourrait dire d'une certaine manière que la techno de Détroit, finalement, elle oppose à une espèce de dystopie réelle qui a été le Fordisme et ses bruits infernaux dans les usines, des utopies, mais qui ne sont pas une sorte d'horizon prométhéen du capitalisme, mais plutôt des utopies assez fantaisistes, en fait, de la mutation d'une partie de l'espèce humaine sous une forme mi-aquatique, ou alors de la conquête spatiale, mais qui finalement n'est pas, en tout cas dans la techno des origines des années 90, une réelle apologie du développement des forces productives et du capitalisme qui libérerait l'humanité du racisme à travers la conquête spatiale.
Je résume tout ça avec grande clarté, en fait. Ouais. On n'aurait pas pu me dire les choses. Ce qui est important dans cette histoire, c'est que l'utopie, en fait, pourquoi c'est important de changer d'utopie ? C'est parce qu'il y a eu des représentations utopiques du Fordisme qui étaient complètement tronquées, qui étaient complètement partielles. C'était assez intéressant, l'année même de l'explosion des émeutes de Détroit en 67, moment où la contradiction, la tension sociale est à son apogée, si on veut, le projet de faire les Jeux Olympiques, donc cette grande célébration en fait de la culture émancipée, des Nations Unies, etc., de faire de Détroit le futur lieu des Jeux Olympiques en 68. Et afin de promouvoir cela, il y a eu des documentaires promotionnels de la ville de Détroit qui ont été faits, notamment un qui est cité dans l'article, qu'on peut voir sur YouTube. Et dans ces documentaires, on représente cette ville comme une utopie réelle, un havre de paix, de progrès, d'amour et d'union des peuples, vraiment, où la technologie a atteint son plus haut degré de savoir-faire et de finesse. Et alors, ça s'est fait du coup dans les idéologies officielles des pouvoirs dominants. Ça a été aussi mis en scène dans les usines de Détroit. Il y a une fresque extrêmement célèbre dans le musée de la ville de Détroit par Diego Rivera, de la représentation de l'usine et du travail à la chaîne. Et on a là l'imaginaire prométhéen et on a l'union des peuples au-delà des races. On a travailleurs blancs et noirs qui travaillent à élever comme ça la machine jusqu'à ses plus hauts potentiels. Voilà donc. Et c'est parce que cette utopie a été représentée comme réelle et en dissimulant un ensemble de contradictions que ce contre-discours, ces contre-récits, contre-récits qui va montrer la dystopie réelle là où on croyait avoir de l'utopie et nouvelles projections utopiques, elles ont un sens dans l'histoire de cette ville et un sens qu'on peut déployer seulement si on a pris conscience de cette histoire-là, quoi. Et je pense que c'est important pour nous qui écoutions cette musique aujourd'hui, de comprendre cela, quoi, de comprendre d'où elle vient.
Est-ce qu'il y a un autre morceau que tu voulais passer et où je pourrais faire le lien de ce qu'on vient de dire?
Ouais, pourquoi pas s'écouter un truc un peu contemporain, mais qui reprend l'imaginaire techno Détroit et aussi avec d'autres perspectives. Moi, il y a une DJ que j'aime beaucoup qui développe le concept de tech noise qui s'appelle Paola Temple et qui, en fait, dans ses sons et dans sa culture musicale, reprend beaucoup de choses de la techno de Détroit et essaie de lui donner une nouvelle portée aujourd'hui. On peut s'écouter alors son premier tube qu'il a fait un peu connaître qui s'appelle Gegen, le mot allemand Gegen, ouais.
Article en partant de l'exemple de la techno de Détroit, mais on voit bien avec ce dernier morceau qu'on peut élargir ça aussi à d'autres formes de techno, pas uniquement celle de Détroit des années 90. Que certes, la techno, comme vous le dites en conclusion, ça peut être une pratique une consommation finalement voilà, de l'industrie culturelle capitaliste classique. Mais pour autant, ce serait vraiment manquer la richesse de la techno que de la réduire à certaines formes commerciales de techno et à une fonction voilà, d'intégration, d'adaptation et de reproduction de la force de travail au capitalisme avancé. Et que, au contraire, il faut aussi voir certaines formes de techno, comme la techno de Détroit, comme des formes de contestation, alors parfois explicite et politique, et parfois dans la structure même du morceau et dans son contenu, de voilà, l'utopie, la dystopie plutôt réelle du capitalisme à la fois fordiste et post-fordiste. Voilà, ça appelle donc à une relecture de la techno et de l'histoire de la techno, loin, disons, des condamnations unilatérales des anti-industriels comme Pièces et Main-d'œuvre ou Jacques Ellul ou des adeptes de la théorie critique comme, par exemple, Robert Kurz ou Usio. Et ça appelle plus largement à une appréhension un peu plus fine des productions musicales populaires contemporaines. On peut penser aussi, c'est évoqué, au rap, qui, souvent à l'extrême gauche, est quand même analysé de manière un petit peu plus fine que la techno, mais où souvent, malgré tout, il y a des schémas, disons, simplificateurs et réducteurs qui sont appliqués à ces productions musicales, qui sont vues au mieux comme des reflets du capitalisme, au pire comme vraiment des productions qui ont activement pour but de reproduire la soumission de la force de travail au capitalisme par justement le loisir. Donc merci beaucoup du coup de nous avoir parlé de la techno. Évidemment, on invite tous les auditeurs et les auditrices à lire l'article pour justement rentrer un petit peu plus dans le détail de cette histoire très riche de la techno de Détroit et rentrer aussi un peu plus dans certaines analyses, notamment musicologiques, que j'ai trouvées passionnantes, mais qui étaient un petit peu compliquées à expliquer à l'oral. Donc, merci beaucoup à vous.
Peut-être préciser aussi que une playlist reliée à l'article sera disponible sur le
site. Ouais, c'est une bonne remarque, ouais.
Sur le site sudoff.fr. Mm. C'est vraiment une playlist, disons, qui ne fait pas que reprendre les morceaux qui sont mentionnés dans l'article, mais qui complète aussi, en quelque sorte, l'article en l'enrobant dans tout son environnement sonore. Et qui est donc à écouter pour les personnes qui sont capables de lire tout en écoutant de la musique. Ça peut être une idée d'accompagner la lecture par cette playlist. En tout cas, un grand merci.
Merci beaucoup.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.